Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manelakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 13 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. L'Union européenne exprime ses inquiétudes face aux violences post-électorales au Tchad et à l'exclusion des observateurs de la présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo en lice malgré leur inéligibilité.
Ce qui est sûr, M. Blégoudé, il a clairement affirmé qu'il se sent prêt et qu'il est intellectuellement et physiquement prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a même dit, j'ai plus qu'une ambition, j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire.
La loi britannique sur l'expulsion des migrants au Rwanda, rejetée par la justice en Irlande du Nord. Tension croissante au Bénin, la flambée des prix alimentaires alimente le mécontentement populaire.
Le ventre a fermé la pointe d'oreille. On a tellement souffert de la faim dans le pays qu'on n'a plus pas à en être exaspéré. Donc à un moment donné, il fallait qu'on hausse le ton pour faire savoir nos misères, nos difficultés.
30 morts et 22 disparus, nouveau bilan après l'effondrement d'un immeuble en construction en Afrique du Sud. La nouvelle menace russe près de Kharkiv, l'Ukraine confiante dans sa défense. Et Anthony Blinken effectue par ailleurs une visite surprise en Ukraine pour rassurer à propos du soutien américain. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. L'Union européenne a exprimé des préoccupations concernant les violences post-électorales au Tchad et a regretté l'exclusion de nombreux observateurs de la présidentielle. Intervenu 4 jours après l'annonce de la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte, cette victoire est contestée par l'opposition. Les détails avec John Lyndon.
Le général Mahamat Idriss Déby Itno a recueilli 61,03% des suffrages dès le premier tour au scrutin du 6 mai, selon les résultats officiels provisoires. Succès Masra, nommé premier ministre en janvier par Déby, est crédité de 18,53% des voix, a affirmé qu'il avait au contraire remporté l'élection et demandé au Conseil constitutionnel d'annuler un scrutin au résultat qualifié de falsifié selon son parti. Le département des affaires étrangères de l'Union européenne a dit prendre note de la publication des résultats provisoires et ne peut que déplorer la non-accréditation d'un nombre important d'observateurs de la société civile à la veille du scrutin. L'Union s'inquiète également des violences post-électorales sans en préciser la nature. Des médias tchadiens ont invoqué des morts et de nombreux blessés par des tirs de joie des militaires à l'annonce des résultats. C'était jeudi soir, mais le gouvernement a refusé d'en livrer le nombre et interdit aux hôpitaux de le faire, invoquant le respect du secret médical.
Au Mali, le colonel Assimi Goïta a accueilli favorablement les recommandations issues de consultations organisées par la junte, proposant plusieurs années supplémentaires de régime militaire et une candidature du colonel Goïta à une future présidentielle. Il a assuré un suivi étroit de ses recommandations pour les concrétiser, sans entrer dans les détails, via une vidéo postée sur la page Facebook de la présidence. Cependant, un collectif de partis et d'organisations de la société civile malienne a rejeté la perspective de régime militaire prolongé, dénonçant une mascarade et accusant les militaires de vouloir s'éterniser au pouvoir. Les consultations étaient censées produire des solutions de sortie de crise. Le nombre d'enfants au Burkina Faso confrontés à des niveaux d'urgence de famine devrait quintupler, atteignant environ 210 000 d'ici la mi-2024 sans une aide alimentaire urgente. L'insécurité, la saison maigre et la hausse des prix alimentaires exacerbent la crise selon l'ONG Save the Children. Les donateurs internationaux doivent intensifier leur soutien pour éviter une catastrophe humanitaire, dit l'ONG. Les États-Unis, par exemple, vont allouer 55 millions de dollars pour répondre à cette crise humanitaire, portant leur assistance totale à près de 158 millions de dollars depuis 2023. La décision de la Haute Cour de Belfast lundi a mis un frein à la mise en œuvre de la loi britannique visant à expulser les migrants vers le Rwanda. La Cour a jugé que plusieurs dispositions de cette loi étaient inapplicables en Irlande du Nord, ajoutant ainsi une complication supplémentaire à son exécution. Alexandrine Rolagnon.
Des pans entiers de la loi devraient être abrogés avant son application en Irlande du Nord au nom de la protection des droits humains. Selon le juge Michael Humphreys, plusieurs dispositions du texte affaiblissaient les droits des demandeurs d'asile, tels que garantis par l'accord de paix et des textes légaux signés récemment pour le protéger. Elles violent également des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, dont le Royaume-Uni est signataire, a-t-il estimé. Ce jugement envoie un message clair au gouvernement britannique, selon Sinéad Marmion, avocate d'un demandeur d'asile iranien. Depuis son entrée en vigueur, de nombreux demandeurs d'asile sont entrés en Irlande en passant par l'Irlande du Nord, espérant échapper à une expulsion au Rwanda. Le Premier ministre irlandais Simon Harris a averti que Dublin prendrait des mesures pour endiguer l'afflux, notamment en renvoyant ces demandeurs d'asile vers le Royaume-Uni.
Les autorités en Afrique du Sud ont annoncé lundi que le bilan de l'effondrement d'un immeuble en construction il y a une semaine s'est alourdi à 30 morts avec 22 personnes toujours portées disparues. Au total, 29 personnes ont été secourues vivantes et des décombres. Nani Tetalani.
Les secouristes ont extrait 10 nouveaux corps des décombres depuis dimanche soir, a annoncé la municipalité de Georges sur la côte sud. Ils ont travaillé sans relâche depuis que cet immeuble de 5 étages en construction s'est soudainement effondré lundi dernier, alors que 81 personnes, en grande majorité des ouvriers, se trouvaient sur place. Les secouristes continuent de fouiller chaque cavité des décombres, même si les chances de survie de ceux qui manquent encore à l'appel s'étiolent. La cause de l'effondrement de l'immeuble, qui devait comprendre 42 appartements et avait reçu un permis de construire, n'a pas été établie. Une enquête a été ouverte et la police cherche encore à joindre le propriétaire du chantier. Certains proches des victimes se disent frustrés face à la lenteur du processus d'identification. Les autorités ont promis d'accélérer l'identification des morts pour aider les familles à commencer leur deuil. La municipalité a également fait appel à des psychologues pour un travail de soutien aux victimes.
Le secrétaire général de l'ONU est très inquiet concernant les combats qui ont eu lieu depuis quelques jours entre l'armée soudanaise et les paramilitaires à El Fasher au Darfour. Antonio Guterres s'inquiète en particulier pour le sort des habitants de la capitale de l'État du Darfour Nord, dont 800 000 déplacés qui font déjà face à la menace de la famine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine est confrontée à une nouvelle offensive de dizaines de milliers de soldats russes aux abords de Kharkiv, sa deuxième plus grande ville. Cependant, le nouveau chef de la sécurité nationale s'est exprimé lundi avec confiance, affirmant que ses forces sont capables de défendre cette cité. Mohamedou Oufa.
L'armée russe a lancé une offensive surprise contre la région de Kharkiv vendredi en faisant de petites avancées près de la frontière, zone dont elle avait été chassée il y a presque 2 ans. Environ 50 000 soldats russes se trouvaient à la frontière. Maintenant, il y a bien plus de 30 000 qui attaquent dans la région, a déclaré Oleksandr Litvinenko, chef de la sécurité nationale ukrainienne. Il a cependant assuré qu'il n'y avait à ce stade aucune menace terrestre contre la ville de Kharkiv, située à une trentaine de kilomètres de la zone de combat. L'offensive russe lancée dans cette zone était attendue car le renseignement a fourni les informations à temps et les militaires ukrainiens étaient prêts à indiquer le responsable. Je suis convaincu que nous disposons de toutes les forces et de tous les moyens pour mettre fin à ces actions, a-t-il toutefois assuré. Pour lui, cette nouvelle attaque vise notamment à créer une zone tampon le long de la frontière afin d'empêcher à l'armée de Kiev de frapper la zone frontalière russe de Belgorod. Il a par ailleurs accusé la Russie de mener des frappes barbares contre les infrastructures civiles de Kharkiv et d'autres villes dans l'est et le sud du pays pour provoquer un exode massif de la population.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé ce mardi matin à Kiev pour une visite surprise. censé rassurer les Ukrainiens sur le soutien continu des États-Unis et promettre un flot d'armement. M. Blinken entend notamment détailler comment l'aide américaine sera mise en œuvre de manière à renforcer leur défense et leur permettre de reprendre l'initiative sur le champ de bataille. L'armée israélienne a multiplié tout ce mardi les frappes aériennes dans la bande de Gaza dévastée par plus de 7 mois de guerre. Les civils palestiniens continuant de fuir les violences, principalement à Rafah, menacée d'une offensive majeure d'Israël. D'autres habitants restés à Rafah sont désespérés. Les États-Unis se sont dit lundi préoccupés par ces bombardements. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par John Lyndon.
Le Bénin devrait connaître une croissance économique de 6,2% en moyenne par an entre 2024 et 2026, grâce notamment à la hausse des investissements et l'expansion de la Globe JB Industrial Zone. C'est du moins ce qu'estime la Banque mondiale. L'institution, selon l'agence Ecofin, souligne que la réalisation d'une croissance économique durable et résiliente à plus long terme dépendra des efforts d'adaptation au changement climatique. En l'absence d'investissements supplémentaires dans ce domaine, les pertes annuelles moyennes du PIB pourraient atteindre 19% d'ici 2050. OpenAI a présenté lundi une nouvelle version de ChatGPT accessible à tous gratuitement qui peut désormais tenir des conversations orales et fluides avec ses utilisateurs. Ces nouvelles capacités vont être progressivement ajoutées à ChatGPT, en commençant par le texte et l'image. Le groupe Emirates, basé à Dubaï et propriétaire de la compagnie aérienne la plus importante du Moyen-Orient, annonce un bénéfice net annuel record d'un peu plus de 5 milliards de dollars sur l'exercice 2023-2024, en hausse de 71% par rapport à l'année précédente. Un résultat dont s'est félicité son PDG en soulignant la forte demande de transports aériens et de services liés aux voyages dans le monde.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur du prix Marc Vivien Foué 2024.
Oui, l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille a enlevé ce prix Marc Vivien Foué qui récompense le meilleur joueur africain évolué en Ligue 1. Pierre-Emerick Aubameyang a devancé le Marocain du PSG Achraf Hakimi. Le Gabonais remporte ainsi ce prix pour la deuxième fois après l'avoir reçu en 2013 quand il évoluait à Saint-Etienne. Il succède ainsi à son coéquipier Chancel Mbemba et rejoint l'Ivoirien Gervinho, ancien joueur de Lille, également double vainqueur du prix Marc Vivien Foué en 2010 et 2011. Pour Amdinsi, notre consultant sportif, c'est mérité pour Aubameyang.
Pierre Aubameyang a réalisé une excellente saison. En 37 apparitions, il a eu à marquer 23 buts sur toutes les compétitions confondues au de la France. Et c'est vraiment une performance extraordinaire puisque Aubameyang est devenu le cinquième meilleur buteur de tous les championnats au niveau de l'Europe. Il est devancé que par certains Harry King, Mbappé et un Haaland et un Lautaro Martinez, ce qui prouve sa performance. D'ailleurs, aucun attaquant au niveau de l'Olympique de Marseille n'a réalisé une si bonne performance depuis un certain Didier Drogba. C'était durant la saison 2003-2004.
Amdinsi, consultant sportif.
Et puis à Cuba, Olivier Giroud, attendu ici en MLS, le championnat nord-américain.
L'international français de l'AC Milan a officialisé son départ du club italien à l'issue de la saison en cours pour poursuivre sa carrière dans le championnat nord-américain, MLS. Je jouerai mes deux derniers matchs avec l'AC Milan, je vais continuer ma carrière dans le championnat nord-américain, a déclaré Olivier Giroud dans une vidéo publiée sur le compte X de son club. Giroud, 37 ans, 131 sélections, n'a pas précisé le nom de sa nouvelle équipe, mais il devrait s'engager avec le Los Angeles FC, club où évolue déjà son ancien coéquipier en équipe de France, Hugo Lloris. Loris depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en 2021. Après être passé notamment par Montpellier, Arsenal et Chelsea, l'attaquant français a marqué 38 buts en Serie A, dont 14 cette saison, son meilleur rendement en club depuis 2016.
Page des sports signée Yacouba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est programmée pour octobre 2025. Bien que les candidats officiels ne soient pas encore connus, l'opposant Charles Blé Goudé, actuellement inéligible, a déjà affirmé qu'il ne laisserait pas cette élection se dérouler sans sa participation. De son côté, l'ancien président Laurent Gbagbo, également inéligible, a été investi par son parti vendredi dernier pour se présenter à cette élection. Rosine Mounetzero a discuté avec Alexis Tino, journaliste en Côte d'Ivoire, pour aborder les enjeux de cette élection.
Monsieur Charles Blé Goudé n'a jamais caché son ambition de participer aux élections présidentielles 2025. D'ailleurs, il s'est dit qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Seulement, à la dernière rentrée politique de son parti, le COGEP, il n'a pas été suffisamment courageux pour l'annoncer. Certains ont même dit que peut-être il était prudent ou alors il attendait de voir les autres candidats. Ce qui est sûr, Monsieur Blé Goudé, il a clairement affirmé qu'il se sent prêt et qu'il est intellectuellement et physiquement prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a même dit: j'ai plus qu'une ambition, j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez que M. Blé Goudé ne s'est pas mis à l'écart des élections parce que Blé Goudé n'a pas fini peut-être avec les problèmes de justice qu'on lui connaît. Il reste circonspect, mais tout en restant aussi énigmatique. Il ne veut pas aller plus vite, mais tout le monde sait que Blé Goudé, depuis longtemps, a voulu diriger ce pays. Il n'a jamais laissé cette ambition.
D'un autre côté, il y a l'ancien président Laurent Gbagbo, lui aussi inéligible à cette élection, mais qui a été investi vendredi par son parti, le PPACI, pour cette présidentielle. Peut-on dire que ces élections s'annoncent déjà tendues?
Oui, ces élections en Côte d'Ivoire font peur. Je dirais même, elles sont très tendues, elles font même peur. Quand on regarde les déclarations, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand on regarde les déclarations, ça ramène les Ivoiriens dans la période de la crise post-électorale que nous avons connue ici. Vous voyez bien que sur le terrain politique, les partis politiques sont déjà en action. Quand l'un parle, l'autre réplique et pas avec les mots courtois. Nous remarquons aujourd'hui que les mêmes tensions qui ont prévalu aux élections présidentielles de 2010, qui a créé les nombreux morts, pas de 3000 morts jusque-là officiellement, mais en réalité, les élections en Côte d'Ivoire font peur. Et depuis le premier président, il n'a jamais eu de passation de charge, de passation de pouvoir en douceur. Tout s'est fait dans la violence. Tout s'est fait dans la crise et un président n'a jamais cédé le pouvoir en partant à son successeur. Et les mêmes conditions sont réunies pour que les tensions reviennent, pour que les Ivoiriens s'affrontent encore. Surtout que ce sont les mêmes acteurs qu'on voit sur le terrain. On parle de retrait, mais on remarque que les mêmes candidats reviennent, les mêmes partis présentent les mêmes candidats et c'est les mêmes candidats qui s'affrontent, les mêmes militants qui s'affrontent de jour en jour.
Outre ces noms déjà connus, quels sont les grands enjeux à cette élection?
Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2025 vont se dérouler principalement entre les trois grandes formations qu'on a toujours connues. Ça, il ne faut pas se le cacher. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Fruitistes pour la démocratie et la paix. Ce sont les trois grandes formations aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui se battent, qui sont connues et qui aujourd'hui font peu de pouvoir pour présenter leurs candidats. Nous savons que le RHDP, le parti qui est au pouvoir actuellement, a fait déjà de grands progrès, ayant réalisé beaucoup de choses qui lui ont attiré beaucoup de militants. Mais aujourd'hui, avec la situation de crise que nous connaissons, nous voyons véritablement les limites de ce parti, ce qui pourrait éventuellement nous coûter quelques militants.
Alexis Tino, journaliste en Côte d'Ivoire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le Bénin est actuellement sous tension en raison des répercussions de la guerre en Ukraine combinée à la fermeture de la frontière avec le Niger. Cette situation a entraîné une flambée des prix des produits alimentaires, suscitant des inquiétudes croissantes au sein de la population. Face à cette montée des prix, les syndicats ont lancé un appel à des manifestations pour protester contre la vie chère. Pour de nombreux habitants, les coûts des denrées de base sont devenus insoutenables. Le point avec Blanche Sanou.
Maryse Assogbadjo fait partie des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Cotonou pour protester contre la hausse des prix et la violation des libertés individuelles et syndicales.
Le ventre affamé n'a point d'oreille. On a tellement souffert de la faim dans notre pays qu'on n'a plus pas à en être exaspéré. Donc à un moment donné, il fallait qu'on hausse le ton pour faire savoir nos misères, nos difficultés aux dirigeants actuels. C'est vrai qu'au départ, ils semblaient être un peu sourds à la démarche, mais ils ont compris que dans la force, on ne peut pas régler le problème parce que ce que les Béninois souffrent comme douleur, la faim qu'ils ressentent au fond d'eux est plus forte que tout.
Tout comme les fonctionnaires, les commerçants béninois dénoncent le ralentissement du marché et la flambée du prix des denrées, notamment le kilogramme de maïs qui a doublé, passant de 200 francs CFA à 400 francs CFA, soit 0,61 euros. Et je n'ai à une Yundé, 68 ans et vendeuse.
Avant, avec 500 francs CFA, on pouvait faire une sauce. Mais aujourd'hui, il faut 5000 francs CFA. Tu as 5 tomates pour 500 francs CFA. Le tas de poivrons à 25 francs CFA est passé à 100 francs CFA. Donc, tout est devenu cher.
En 2023, l'économie béninoise s'est montrée résiliente malgré les chocs économiques externes auxquels le pays a dû faire face selon la Banque mondiale. Blandine Segun, vendeuse, s'inquiète aussi de l'inflation.
Les bananes que nous achetions à 40 000 francs CFA sont passées à 80 000 francs CFA, voire 90 000 francs CFA, et parfois même à 100 000 francs CFA. Et ce sont de petites bananes qui nous causent d'énormes pertes. Nous souffrons trop comme la population.
Lors d'un conseil des ministres tenu récemment, le gouvernement du Bénin a temporairement suspendu les exportations de céréales afin de freiner la flambée des prix. Isabelle Giramedo s'en plaint.
Nous allons finir par mourir avec tout ça. Sinon, qu'allons-nous faire de cette augmentation des prix? Ce n'était pas comme ça avant. Nous avons d'autres factures à payer, dont nos loyers et nos impôts. Le pouvoir en place doit penser à nous, car nous avons également contribué à son élection.
La fermeture de la frontière nord du Bénin avec le Niger a affecté les revenus du gouvernement béninois et a également eu un impact sur le coût des produits alimentaires. Le président Patrice Talon a demandé aux dirigeants militaires du Niger de collaborer et de réouvrir leur côté de la frontière.
Près de 3 millions de Burkinabés seront confrontés à une insécurité alimentaire nécessitant une aide d'urgence. Les États-Unis vont allouer 55 millions de dollars pour répondre à cette crise humanitaire, portant leur assistance totale à près de 158 millions de dollars depuis 2023. Pour en parler, VOA Afrique a joint à Ouagadougou Madi Ouedraogo du Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international.
Donc, cette annonce reflète notre engagement continu envers les populations du Burkina Faso, les plus durement touchées par le conflit en cours. Notre mission est de sauver des vies et en fournissant la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé d'urgence, et des services d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des services nutritionnels essentiels aux populations les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre au Burkina Faso. La majorité de l'aide annoncée a été fournie au Programme alimentaire mondial, le PAM, et notre soutien à l'opération de transport aérien par hélicoptère garantit l'approvisionnement en nourriture pour les plus vulnérables et en produits nutritionnels pour les enfants souffrant de malnutrition dans les zones les plus difficiles d'accès comme Djibo, Gaïri, Mansila, pour ne citer que celles-ci. Également, USAID soutient depuis longtemps l'achat de plan peanut et un traitement pour les enfants souffrant de malnutrition. Et donc, nous passons par l'UNICEF pour approvisionner auprès d'Ino Faso. Ino Faso est une entreprise burkinabé.
Depuis 2023, c'est un montant qui totalise près de 158 millions de dollars. Voudriez-vous nous parler déjà de l'impact?
Il faut dire que notre aide a touché plus d'un demi-million de personnes au cours des deux dernières années au Burkina. Et l'année dernière, à travers nos subventions à des partenaires, notamment des ONG locales, des ONG internationales et les Nations Unies. Et nous avons donné de la nourriture qui non seulement a assuré la subsistance, mais a garanti également la dignité des populations à travers le choix même des aliments acceptables au niveau local. Nous avons également fourni des produits nutritionnels comme des céréales données aux femmes enceintes pour garantir une grossesse en bonne santé et aussi le traitement des enfants malnutris, ce qui a contribué à sauver des vies et a aussi garanti aux enfants l'atteinte de leur plein potentiel. Et en plus de cela, nous avons fourni des soins de santé à travers des approches telles que les postes de santé avancés et les cliniques mobiles dans les zones où les centres de santé sont fermés et aussi dans les zones d'accueil des personnes déplacées. Et en ce qui concerne la fourniture d'eau, nous avons fait du water tracking, qui est la fourniture d'eau par le biais de camions et citernes. Et aussi, nous avons réhabilité des forages. Et en termes d'abris, nous avons fourni des abris d'urgence durables et semi-durables et nous avons combiné cela à des articles ménagers pour les personnes récemment déplacées.
Madi Ouedraogo, spécialiste de gestion de projets et programmes pour le bureau en charge d'assistance humanitaire à l'USAID. L'intégralité de cet entretien à écouter sur voafrique.com. Les électeurs américains accordent généralement peu d'importance aux questions de politique étrangère et la politique africaine ne figure pas souvent en tête de leurs préoccupations lorsqu'ils choisissent leur président. Cependant, les analystes s'accordent à dire que quel que soit le candidat remportant l'élection en novembre prochain, il sera confronté à un défi majeur, restaurer l'influence et le prestige de l'Amérique sur le vaste continent africain, peuple de plus d'un milliard 200 000 habitants. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorcide.
L'Afrique n'est pas monolithique. Elle recèle une richesse de ressources et de traditions et toute la gamme de luttes auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes États-nations. Bien que le continent à la croissance la plus rapide du monde joue un rôle relativement modeste sur cette scène, le prochain locataire de la Maison-Blanche, que ce soit l'ancien président républicain Donald Trump ou le président démocrate Joe Biden, devra faire des choix politiques qui répondent aux conditions économiques et de sécurité en évolution rapide en Afrique. La position passée de Trump sur l'Afrique, dit-on, peut être résumée en un mot injurieux qu'il aurait utilisé pour décrire les pays africains et la nation caribéenne d'Haïti. Michael Walsh est analyste de l'Afrique au Foreign Policy Research Institute.
Je veux dire qu'il a utilisé de manière célèbre ce juron pour désigner un certain nombre de pays d'Afrique. Ensuite, il a poursuivi une stratégie et une politique vraiment axée sur l'examen des questions brûlantes en Afrique, les questions de sécurité, et il a essayé de les éradiquer. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie globale.
Biden a mis l'accent sur un partenariat axé sur les valeurs sur le continent, mais cela a été largement éclipsé par sa lutte contre l'influence de la Russie en Afrique et le soutien des États-Unis à Israël. Cameron Hudson est chercheur principal au programme Afrique du Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que les Africains regardent bien au-delà de nos politiques en Afrique, qu'ils s'intéressent à la guerre au Moyen-Orient, à la guerre à Gaza et au soutien des États-Unis à Israël, par exemple, ou aux demandes faites aux pays africains de ne pas traiter avec la Russie ou de ne pas nouer de relations avec elle. Je pense donc qu'ils voient un certain degré d'hypocrisie dans les politiques de l'administration Biden au niveau mondial. Et cela ne lui fait pas beaucoup de nouveaux amis en Afrique.
C'est un point que l'Afrique du Sud a mis en évidence en accusant Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide dans le cadre d'une plainte historique portée devant la plus haute juridiction de l'ONU. Interrogée par la Voix de l'Amérique en janvier, l'administration Biden a rejeté l'affaire comme étant sans fondement. Les analystes estiment que cette atteinte à la crédibilité de l'Amérique invite les adversaires à en profiter. Selon Cameron Hudson, le prochain président américain sera confronté à un continent de plus en plus enhardi.
Je pense que tout nouveau président américain sera confronté au déclin de l'influence de Washington sur le continent africain.
Le président Biden a envoyé la vice-présidente Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Cependant, ni lui ni Trump ne se sont rendus en Afrique en tant que président.
demande d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.